Jardin. Okay. Je m'appelle Guillaume Audria. Je représente Kumbit pour présenter le projet de gestion interne, notre projet, en fait, qui est K-Project. Au début, la présentation était plus littéralement un démo, mais ça s'est transformé en démonstration de code d'utilisation parce que le développement de K-Project est beaucoup lié à notre workflow interne. Mais on espère quand même que ce soit adaptable à tout le monde. Donc, je vais parler de la création de comment le projet en est venu à être créé, puis ça implique parler un peu de l'histoire de Kumbit. Ensuite, je vais démontrer les fonctions, parler de comment Drupal influence en fait le développement, puis ensuite, qu'est-ce qu'on espère faire dans l'avenir. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Kumbit, c'est une OBNL qui a été fondée en 2004 par 7 personnes. Ça a beaucoup grandi depuis, mais on garde quand même le modèle autogéré, en fait. On a un conseil d'administration et puis un groupe de travailleurs qui est autogéré, c'est-à-dire on fonctionne un peu avec le modèle coopératif. Ça ressemblerait un peu au modèle coopératif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de hiérarchie, on n'a pas de cadre, en fait. Ce qui influence aussi beaucoup, évidemment, le développement de notre outil de gestion interne et la direction qu'on prend avec tout ça. Donc, K-Project en tant que tel a été créé en septembre 2008, commencé en septembre 2008. Avant ça, la façon qu'on faisait pour gérer notre temps, nos projets, tout ça, c'était un outil custom maison, complètement PHP en fait, qui apparemment a accumulé quand même une pas mal grosse base de données, ce qui a influencé notre choix ensuite de comment ça s'est développé, évidemment. Donc, ça partait d'un outil PHP custom, un peu complètement, mais juste complètement custom en fait, pour ensuite tomber plus dans l'officiel. Et puis, comme Kumbit faisait beaucoup de développement de Drupal déjà à ce moment-là, ça faisait 4 ans qu'il en faisait, parce qu'ils ont toujours. Kumbit a toujours été fort sur le développement de Drupal. Ça a été naturel de choisir ça. Et c'est là que ça a été créé. Mais évidemment, il a fallu faire un choix dans le développement de l'outil. Ça n'a pas juste été au hasard un peu. En fait, ça a été complètement délibéré. Donc, il faut se demander pourquoi on a choisi Drupal. Tandis qu'il y a d'autres outils de gestion de projet qui existent, ceux qui gèrent une entreprise de service ou quoi, sont familiers avec le fait qu'il existe plusieurs solutions. Donc, il fallait vraiment vouloir fort pour créer un outil complètement nouveau à la base avec Drupal. Ça, ça a été fait premièrement parce que l'ancien outil était en PHP. Donc, on a cru qu'on pouvait réutiliser des parties du code. Ou en tout cas, il y avait déjà une bonne base PHP pour l'outil de gestion en tant que tel. Ensuite, évidemment, la philosophie « eat your own dog food ». En français, ça veut dire faire un peu la même chose pour nous que ce qu'on donne aux clients. Une façon d'agrandir l'expertise toujours, mais aussi une façon de démontrer en fait que c'est assez bon pour nous. Si c'est assez bon pour nous, c'est assez bon pour le client en fait en général. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de solutions déjà existantes pour gérer les projets, pour gérer les horaires, les employés, tout ça. Mais comme vous êtes certainement au courant, il y a une grosse partie de ces solutions-là qui sont propriétaires. Et déjà, dans les valeurs fondatrices de Kumbit, il y a l'open source, le logiciel libre. Donc, des solutions propriétaires, c'est un peu hors de question. Donc, ça empêche quand même une grosse partie des possibilités, là, si on ne veut pas d'outils propriétaires. Ensuite, il y avait évidemment des outils open source, il y en avait déjà à ce moment-là, il y en a encore plus aujourd'hui. Mais une des grosses affaires qui manque, ou qui manquait en tout cas sur la majorité d'entre eux, c'était le time tracking. C'est-à-dire que K-Project, c'est pas un outil juste pour savoir avec qui on fait affaire et sur quoi chaque personne travaille, c'est aussi un outil qui sert à savoir facilement combien de temps on passe sur chaque chose, en fait. Combien de temps on passe à travailler pour chaque client, pour chaque contrat. Donc, ça, c'est... D'ailleurs, il y a une distinction là, dans une définition de gestion de projet que j'aborderai tantôt, mais ça, c'est une partie importante, en fait, qui n'est pas vraiment présente ou pas nécessairement en temps réel dans d'autres logiciels, au fond, libres. Donc, la création des punchs en temps réel, des punchs, c'est-à-dire les mesures de temps que les gens travaillent en temps réel, c'était déjà implémenté dans l'outil custom qu'on avait avant. Donc, ça semblait, apparemment, les gens s'étaient habitués à ça, en fait. Et c'est une bonne chose, c'est très, très efficace. Interface, c'est... Oui, c'est ça. Il y a aussi la possibilité d'interfacer avec le chat IRC, qui est une très bonne chose, en fait. Très pratique, parce que les gens ne veulent pas souvent avoir à dealer avec une interface web qui est parfois... en tout cas, ou une interface graphique, en tout cas, qui est, pour la majorité des développeurs, un peu lourde, si on veut. Donc, il y a cette interface avec le chat IRC, qui est très utile. En fait, qui était, à ce que j'ai compris, une nécessité là, pour les gens qui sont plus habitués avec la ligne de commande et tout. Bon. Fait que c'est quoi K-Project, en fait? Qu'est-ce que ça a donné? C'est un outil de gestion de projet. Mais il y a beaucoup de définitions d'outils de gestion de projet. Ce qu'on veut dire ici, c'est plus précisément qu'on veut garder le compte de quels clients existent, quels contrats existent et quelles tâches sont sur ces contrats-là. Mais on veut aussi avoir du time tracking. En français, un horodateur, mais il n'y a personne qui sait c'est quoi. C'est un punch clock. Donc ça, c'est un peu notre définition de gestion de projet, c'est suivi des entités existantes avec le suivi du temps, si on veut. K-Project fait, étant un outil Drupal, évidemment, fait une intégration avec beaucoup de modules, ce qui est très, ce qui est très bénéfique, si on veut, pour le projet. Par exemple, on utilise Flags pour assigner des tâches à des personnes. On utilise le module date qui est très utile, malgré que ça n'a pas l'air important, mais c'est très utile. Views, c'est inévitable, évidemment, et très utile aussi. Récemment, on a rajouté compatibilité avec Libraries, qui est toujours, toujours bien. Et jQuery UI, qui aide beaucoup aussi. Donc, je vais passer un peu à la démonstration. K-Project. Bon. Dans K-Project, on a une gestion des clients, des contrats et des tâches. Le site est en anglais, mais je vais supposer que vous êtes clients et clients, puis c'est pas très compliqué. Cette séparation-là d'entités entre clients, contrats et tâches est très, encore une fois, très liée à notre workflow, mais je pense qu'elle peut être quand même facilement généralisée et c'est pour ça que on a adapté ça un peu. Avant, il y avait plus de différents types de différentes affaires, mais ça, il y avait beaucoup de redondance dans les types de nodes, fait qu'on a décidé de ne pas les utiliser. Si on va dans la création du compte, on peut créer un client. Donc, un client, ça, c'est, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire. Ça a juste un nom et puis une description, évidemment. Idéalement, on rentrerait ici des informations de contact ou de par rapport à d'autres outils administratifs qui n'est pas trop important. Comme vous voyez, c'est une node, donc il y a évidemment beaucoup de liberté dans les autres options qu'on peut ajouter. On peut même avoir des commentaires, ce qui est toujours pratique. Là, bon, si on veut pas que la personne qui... Si on veut pas éditer le client directement, on peut mettre des commentaires. Bon. C'est une node. Parce que dans Drupal 5 et 6, il y a juste des nodes en majorité. Évidemment, le projet a commencé en Drupal 5, donc ça l'a un peu influencé, mais il n'y a pas une grosse différence, selon moi, une grosse différence d'architecture entre les deux. Donc, oui. On a un workflow associé à tout ça, qui est le nôtre, évidemment. Les clients ont des contrats qu'on peut voir ici. Il y a un lead, bon, il y a un alias, il y a un nom de client avec un bel autocomplete qui fonctionne quand on a la bonne librairie d'installer, ce qui n'est pas mon cas ici. J'en ai créé déjà à l'avance, ça tombe bien. Les contrats sont un peu spéciaux. C'est très évolué en fait parce que ça fait très longtemps que c'est en développement. Donc, on a tout un workflow qui est associé à ça. Quand je dis workflow, je veux dire l'état du contrat, où est-ce qu'on en est par rapport au développement, par rapport au contact client, tout ça. Ça commence avec prospect, puis ça finit avec différentes affaires, là, mais. Bon, ça c'est encore une fois, très lié à notre workflow, mais possiblement, je dirais que c'est très adaptable quand même. Et puis, juste un instant. On a un contrat ici, on a automatisé plusieurs fonctions, par exemple, quand on veut changer l'état du truc. En ce moment, c'est pas super visuel là, comme démonstration, mais quand on crée le contrat, il est assigné automatiquement à la personne qui l'a créé, si on a sélectionné l'option, encore une fois. Bon, tout ce genre d'automatisation-là qui est vraiment lié à. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie que les gens aient besoin de fournir le moins d'efforts possible pour pouvoir juste faire le suivi de leur travail quotidien, si on veut. Création, voilà, juste un autre exemple. Quand on crée un contrat, on peut aussi directement juste entrer. On peut entrer un nom de client qui n'est pas existant et puis là on dit n'importe quoi qu'on sait qu'il n'existe pas déjà. Il va être créé automatiquement et tout le monde va être content. Si ça fonctionne, effectivement. Étant donné que c'est un outil interne, évidemment, on a quand même je dirais une bonne partie traduite, mais on n'a pas nécessairement dépensé autant d'efforts que si c'était un outil qu'on avait déjà fait beaucoup d'efforts de publicisation dessus. Oui, et ça, c'est accompagné en plus des clients contre-tâche, il faut savoir combien de temps qu'on passe sur les clients contre-tâche. Donc, c'est associé à un outil de punchage ici, au rodateur, comme en bon français. Ici, comme vous voyez, le autocomplete de Drupal par défaut était comme pas suffisant après un bout de temps, parce qu'on a une belle hiérarchie pour savoir qu'est-ce qu'on essaie de se puncher, en fait. Puis on dit. Et donc là, on voit qu'on est punché depuis X temps et tout. C'est assez, je dirais, standard, mais c'est quand même assez précis. D'ailleurs, il y a eu en tout cas, on a essayé de faire ça tellement précis que c'était un peu. Ça a posé des complications, mais en tout cas, c'est très très précis. Ça compte les secondes et tout. Et puis quand on a fini, bon, on fait. Punch out. Et on voit ici, on peut voir la liste des punches. Et là, s'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient punchées, on verrait toute la liste de tous ceux qui se sont punchés dans cette tâche-là depuis toujours. Ce qui est très pratique. Encore une fois, lié à notre façon de gérer les choses, c'est-à-dire que on n'a pas nécessairement les permissions très granulaires, si on veut, mais on a quand même. Certaines manières d'ajuster tout ça, mais le but c'était vraiment d'avoir une façon simple de faire afficher les punchs, les tâches, tout ce qu'on veut. Ça a été extrêmement, extrêmement, extrêmement amélioré par Views. L'intégration des punchs avec Views a été comme depuis le début, ce qui fait en sorte que à peu près tous les utilisateurs peuvent juste créer une nouvelle vue pour les punchs, pour savoir, bon. Qui s'est punché, à quelle heure, quel jour, telle date, avec telle taxonomie, avec tel client ou quoi que ce soit. Donc, les views, vraiment, vraiment super efficaces. Super utile dans un système de gestion de projet comme ça. Ça, c'est tout du custom code. C'est genre, c'est tout intégré. K-Project, c'est un module Contributor. Et puis, donc, mais pour l'administration, on essaye que les gens n'aient pas besoin de rentrer du custom code juste pour l'administration, en fait. C'est le projet fait l'administration, donc tout le code custom du projet est comme dans le module. On ne veut pas que les gens aient besoin de faire du PHP pour pouvoir voir comme la liste de quoi que ce soit. Là, si on veut. C'est tout de l'intégration. C'est toute l'intégration en fait qui a été faite manuellement, là, si on veut. Comme il a fallu décider, OK. On veut pouvoir voir les fields dans CCK, bien là, on les ajoute dans CCK. On veut pouvoir faire des listes de punch par views, on ajoute l'intégration en views. Il y a eu un plugin de views spécial qui a été fait pour le projet, qui se load tout seul. Là, je veux dire, bon, j'ai parlé d'installation tantôt, mais en gros, c'est comme. C'est tout intégré partout, juste pour améliorer l'ergonomie, si on veut. L'expérience utilisateur, justement, on veut qu'il y ait le plus de possibilités possibles. Dans tout ça. Mais, comme je vous ai montré, moi je vous ai montré qu'on se punch par l'interface utilisateur, en fait, mais en fait, on fait rarement ça. Dans les faits, on a plus tendance à y aller par IRC parce que, premièrement parce qu'on a développé l'intégration IRC, c'est super le fun, mais la raison pourquoi on a fait ça, c'est que le monde c'est plus productif, c'est plus efficace. Le monde a juste à écrire comme punch in le nom de la tâche avec un commentaire. Et puis, ça va créer automatiquement un punch dans le système. Ça va créer tout ce qu'il faut pour pouvoir, dans le fond, le but, c'est de pouvoir tout faire un peu par IRC. Parce que, étant une majorité de développeurs, on n'aime pas ça les interfaces graphiques, pour la majorité d'entre nous. Là, évidemment, ça ne marche pas parce que j'ai pas fait plugger IRC au site live, là, parce que ça serait un peu fou. Mais en gros, de toute façon, c'est comme ça qu'on fait. Et puis, il y a aussi, depuis un bout de temps, il y a aussi les créations de tâches, clients, contrats par IRC aussi. Plus le temps avance et plus on essaie de juste mettre le plus d'affaires possible dans IRC. En gardant évidemment toujours la possibilité de faire les choses par l'interface graphique. Parce que des fois c'est juste trop compliqué sans interface, évidemment. Mais la plupart du temps, ça fonctionne quand même assez bien par IRC. Une affaire super intéressante que je suis pas sûr qu'il y a dans d'autres systèmes, c'est la gestion des factures. Chez Kumbit, la façon qu'on fonctionnait avant, c'est qu'on fait du travail pour un client. On sait combien de temps qu'on a on sait combien de temps on a passé pour le client. Mais le problème, c'est que pour savoir ça, il fallait aller dans notre outil de facturation qui est, en ce cas-ci, Ledger, mais ça pourrait être n'importe quel parce qu'il n'est pas particulièrement intégré. Mais, bon, en gros, il y avait comme plusieurs outils différents et puis il fallait toujours vérifier les informations ailleurs. Ce qu'on essaie de faire avec K-Project, c'est centraliser l'information de façon à avoir juste une place où aller pour toutes les informations de notre entreprise, en fait. Tout ce qu'on veut savoir, c'est tout un peu à la même place en termes de commerce. Là, évidemment, on a d'autres informations ailleurs. Mais ce que ça fait, en gros, c'est que quand on punch... Quand on a punché, tout le monde a punché. En théorie, il y a une grosse liste de punch parce que plein de monde a punché. Et puis là, on fait. On va dans la création de facture qui est sur les contrats. En gros, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on peut. Assigner plusieurs punch en même temps à une seule facture. Et nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste. on prend toutes les punches d'une date à une date, on regarde si on, bon, si le travail est effectivement facturable. Une fois que c'est fait, on crée une facture avec ça et on dit au comptable, va voir, la facture est là. C'est tout à la même place. C'est super. Il y a comme une grosse amélioration de l'efficacité par rapport à avant. Où est-ce qu'avant, la comptabilité était obligée d'aller voir les anciennes factures dans le système de comptabilité qui était, ma foi, très compliqué. On a une gestion du pipeline. Je ne sais pas vraiment comment on dit ça en français, pipeline. Mais en gros, les heures qu'on attribue à chaque contrat. On a plusieurs contrats. Notre problème à Kumbit, c'est que on a beaucoup de contrats qui ont des quantités d'heures différentes, évidemment, et vu que c'est des services, il faut qu'on ait les gens disponibles à tel moment pour tel contrat. Donc, on a un outil de gestion du pipeline qui fait en sorte que, en gros, on assigne telles heures à tel contrat, à tel mois, à telle semaine, de façon à ce qu'on sait que, par exemple, au mois de décembre, on va avoir besoin de 2000 heures de développeurs ou quoi que ce soit, en anglais man-hours, pour simplifier. Mais, donc c'est ça, une gestion du pipeline par contrat, qui est... juste un instant. Ah, ok. Qui est dans un repo différent. Il y a toutes des spécificités. Mettons que l'installation est très spécifique, pas tellement, pas assez documentée, je l'admets. Mais je vais essayer d'inclure plus de documentation dans un commentaire sur la session ou quoi que ce soit. En plus du pipeline, évidemment, on a aussi les disponibilités de travail. Ça serait un peu inutile d'avoir. Ben, ça serait un peu moins efficace si on n'avait pas ça. Disponibilité de travail, ça aussi, c'est très spécifique au modèle autogéré, si on veut, parce que chez Kumbit, contrairement à peu près beaucoup d'autres shops de services, chez Kumbit, tout le monde fait des heures différentes. C'est pas tout le monde qui travaille 35 à 40 heures semaine. Il y en a qui le font, il y en a d'autres qui le font pas. Et on veut savoir aussi combien de temps chaque personne va faire à chaque semaine. Donc, on a un outil aussi de gestion de disponibilité de travail qui fait en sorte que si une personne prend ses vacances comme au mois de janvier, ou sinon, si tout le monde prend ses vacances au mois de janvier, bien, on voit qu'il manque 10 000 heures au mois de janvier parce que tout le monde a pris ses vacances en même temps. Ce qui est quand même une bonne chose à savoir aussi. Mais c'est plus, évidemment, c'est plus pour comparer la gestion de disponibilité de travail et la gestion des pipelines de contrats et espérer que ça donne à peu près le même nombre d'heures. En général, c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, évidemment, corrigé. Ça, c'est disponibilité de travail et pipeline, c'est quand même des modules plus récents, donc ils sont moins développés que les autres. Ils sont surtout, ils ne résoutent pas le problème humain qu'il faut que les gens indiquent c'est quoi leur pipeline pour qu'on puisse gérer, en fait. Ce qui est un problème, qui n'est pas un problème technique qu'il faut, mais qui est quand même, en tout cas, il n'y a pas de solution à ça. Pas technique. Alors, on a, oui, des rapports hebdomadaires qui sont super informatifs, si on veut. On peut personnaliser des rapports hebdomadaires qui vont être envoyés par email à un certain email à chaque semaine, par exemple. Dans notre cas, c'est la liste de travail. Pour savoir combien d'heures chaque personne a passé sur chaque chose durant la semaine. Parce que, étant autogéré, on a besoin que tout le monde sache ça. Mais si on avait une hiérarchie, évidemment, on pourrait juste changer le email pour que ce soit juste une personne qui le reçoit, si on avait un peu ce modèle-là. Mais en ce moment, c'est quand même le fait qu'on a des rapports hebdomadaires personnalisés. On sait qui fait quoi. En tout cas, si on les lit. Tout ce que je viens de dire, ça existe, ça aurait pu être fait un peu dans d'autres logiciels. On a choisi Drupal pour tous ses merveilleux côtés, mais ça a des conséquences aussi. Drupal, c'est un CMS, donc, ou en tout cas, en 5 et 6, on se posait pas trop de questions, c'était juste un CMS. Ça veut dire que le modèle de données est vraiment guidé. On a, bon, tout est des nodes, t'sais, par défaut un peu, là, c'est comme si quelque chose peut être un node, ça va être un node. Ce qui est très, très, très pratique pour la gestion de projet, mais ce qui n'est pas nécessairement approprié pour absolument toutes les entités. Puis pour la performance aussi, il y a peut-être des petits accrochages de performance. Juste du fait que ce soit Drupal, en fait, que je parlais de Drupal 7 tantôt, mais Drupal 7 résout pas mal ça. Ça vient aussi avec PHP. Moi, j'adore PHP. Il y en a qui n'aiment pas ça. Bon, évidemment, si on a choisi Drupal, on a choisi PHP. Ah oui, comme je disais, avant Drupal 7, tout est une node. Donc, le fait qu'on a, comme tantôt, je vous montrais les clients en contrat et tâches, et vous voyez que ça pourrait être comme publié ou pas publié. Est-ce qu'il n'y a pas particulièrement de sens dans le cas des clients, par exemple? C'est plus visé comme étant un genre d'intranet. Fait que publier, ça ne veut rien dire, au fond. Là. Soit le client existe ou il n'existe pas. Par exemple, les punch. Les punch étant comme l'outil de mesure une mesure de temps de quelque chose travaillé. Ça n'avait pas assez de sens de faire ça en node, donc il a fallu faire ça différemment, là, si on veut, custom, comme du contenu qui n'est pas une node, en fait. Et il y a, en Drupal 5 et 6, il y avait très peu de support, relativement à plus récemment, il y avait très peu de support pour ça, ce qui fait en sorte qu'il a fallu, par exemple, je parlais d'intégration Views puis CCK tantôt, ça s'est fait manuellement au lieu d'être comme automatique, si on veut. Mais ça a été très utile parce que on aurait quand même perdu sur la performance si on avait décidé que ce serait des nodes. Donc, étant donné qu'il y a comme 10 000 punch par année, on ne pouvait pas se permettre d'avoir 10 000 éléments publiables, pas publiables, et que dont Drupal fait tous les tests de vérification sur les nodes. Il fait des vérifications qui ne sont pas les mêmes que si tu n'as juste, en fait, pas de nodes. Conséquence aussi, migration. Si c'était... faut faire attention. Migration 5 et 6. Le projet a commencé en 5 et la migration à 6 était toujours un peu compliquée parce que toutes les données étant pas des nodes, il a fallu faire ça pas mal custom, à ce que j'ai compris. Et puis, je regarde Yann qui travaille beaucoup sur le projet. Donc, c'était compliqué à ce que j'ai entendu dire. Il faut, faut être conscient de ça, mais depuis Drupal 6, je dirais de 6 à 7, selon moi, la migration des données va être assez simple. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'efforts qui ont été mis dans la communauté pour la migration des données, des modules, des trucs machin. Ça, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est un peu comme des inconvénients de Drupal, mais il y a évidemment beaucoup plus de bénéfices, étant donné qu'on a fini par utiliser ça. Juste le fait que ce soit un CMS, ça vient avec des menus, des formulaires puis des rôles qui ont comme beaucoup de sens en fait dans la gestion de projet parce que tout le monde fait des choses différentes. Menu, bon, super utile. Tout ça qu'il aurait fallu refaire de zéro si on avait pris comme si on avait juste décidé de faire quelque chose de complètement custom. Modification des nodes, c'est super facile. Ce qui est super bien, c'est que si on va sur, par exemple, un contrat, si on va voir sur un contrat, en fait, contrat, c'est une node. Bon. Donc, on peut toujours modifier, selon les besoins, en fait, ça a été beaucoup modifié selon, à travers le temps, pour que sur notre implémentation de KProject pour notre outil de travail, en fait, on a toujours ajouté comme différentes informations, comme des liens vers d'autres outils de travail ou des états. Bon, la taxonomie, évidemment, super incroyablement utile pour catégoriser. La taxonomie qui est extrêmement flexible, ce qui fait que aussitôt qu'on a besoin de savoir quelque chose, on le sait. On fait juste ajouter l'information et puis on l'ajoute à toutes. Et puis, on peut compiler des statistiques super facilement. Bon, module de date, comme j'ai dit tantôt, super pratique parce que gérer les dates en programmation, c'est toujours l'enfer. Et puis, module de date, super utile. On a Eager aussi, qui est vraiment incroyable en termes de développement parce que grâce à le fait qu'on a Drupal, on a Eager, on a accès aux possibilités, ce qui fait en sorte que on n'a pas besoin de tester notre développement sur un site qui est juste équivalent au site de travail, en fait. On peut tester le développement sur un site qui est exactement une copie conforme de notre site de travail, ce qui fait en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des mauvaises surprises, avec nos données en production de travail de nos clients. C'est très désagréable d'avoir des surprises en production. Donc, Eager, super le fun, super cool. Bon, pour utiliser KeyProject, là, c'est un peu facile pour nous de Kumbit de dire KeyProject, ça fait ci, ça fait ça, mais si vous avez une société de service et que vous voulez utiliser KeyProject, il y a, premièrement, le projet est sur Drupal.org, mais étant donné que quand on l'a mis sur Drupal.org, nous, on utilisait Git, eux, ils utilisaient Drupal.org, ils utilisaient encore SVN dans ce temps-là. Donc, c'est pas tout à fait à jour. Je vous dirais que la meilleure façon... On a un dépôt public, là. Donc, la meilleure façon d'utiliser KeyProject, c'est juste télécharger à partir du dépôt public Git ou quoi que ce soit. Vous pouvez nous envoyer un email, évidemment, parce que là, bon, ça, c'est pas compliqué, mais si vous savez pas vous servir de Git, ça peut l'être, je suppose. Il y a, par contre, on a développé un feature quand même récemment qui fait en sorte que toutes les spécificités d'installation s'activent idéalement comme elles devraient être. Parce que c'est en développement continuel, donc il faut toujours ajuster certaines affaires quand on l'installe et tout. On a un feature. Apparemment, il fonctionne. Je vous le conseille. Ça veut dire que vous pouvez l'installer en un clic, là, en gros. On a aussi un thème personnalisé parce que on n'a pas le... En gros, le thème de base de Drupal n'était pas vraiment approprié à un outil de gestion, à un outil d'administration. Donc, on a un thème personnalisé que je suppose est open source. Mais en tout cas, il faut savoir que ça va beaucoup mieux avec un thème qui permet plus d'espace pour différents types de contenus. Juste un avertissement. L'avenir. Qu'est-ce qui s'en vient? En fait, c'est la grosse affaire, c'est la Drupal 7, évidemment. Tous les gros modules importants qu'on tribue sont en train d'être traduits à Drupal 7. Et de la même façon, on s'est dit qu'on voulait aller vers Drupal 7. C'est très bien entamé, là. Et puis, je dirais que c'est extrêmement... pour ceux qui pensent à migrer des modules à Drupal 7, c'est extrêmement bien adapté à nos besoins, si on veut. Par exemple, tantôt, je disais que toutes les affaires sur lesquelles on voudrait faire des modifications facilement, il fallait que ce soit des nodes. En Drupal 7, ce n'est pas le cas. On a Entity API, les entités, tout ça, qui fait en sorte que tout ce qu'on peut concevoir, en fait, on en fait une entité, et puis les utilisateurs sont automatiquement libres de ajouter des affaires ou pas en ajouter, faire des vues sur ces entités-là, tout ça, en gros, la créativité des utilisateurs est multipliée, ou en tout cas, la possibilité de créativité. Bon, le fait qu'on ait les fields en core, Drupal 6, CCK, c'était pas core et tout, c'était toujours un peu un problème au niveau de l'intégration, c'était jamais comme 100%. Fields est en core, ça veut dire que tout ce qu'on fait, on le fait en fields, et puis les fields, on peut les ajouter sur à peu près tout. Donc, encore une fois, la flexibilité est vraiment multipliée avec Drupal 7, qu'on espère finir la version 7 bientôt. Mais là, en gros, ce qui est vraiment fantastique, c'est que ça devient encore plus flexible comme outil. C'est déjà flexible de la façon qu'on l'utilise en ce moment en Drupal 6, mais en 7, c'est vraiment incroyablement multiplié. Intégration avec Drupal 7, intégration avec les autres modules Contrib, c'est encore plus facile. C'est extrêmement standardisé, les API et tout ça. Il y a un système de construction de requêtes, ce qui est super cool. Super cool, super standardisé. Le temps de développement est vraiment diminué avec Drupal 7. C'est vraiment un paradis. Il y a les overlays aussi, les pop-ups. Une des requêtes qu'on avait souvent, c'est que, quand on veut modifier, on a comme une grosse liste de punch, par exemple. On veut modifier les punch. Là, il faut les modifier comme un après l'autre, ou ici. Il faut les modifier un après l'autre, revenir, loader. Drupal, comme de base, n'est pas vraiment... super rapide pour ce genre de changement constant de fenêtre comme ça. Donc on a juste ouais, c'est ça. Donc en Drupal 7, les pop-ups, c'est super simple. Ça fonctionne, l'overlay, en fait, ça fonctionne. Pas de problème avec ça. Tandis qu'en Drupal 6, c'est vraiment compliqué. Donc, évidemment, la version Drupal 7 va être beaucoup plus dynamique, si on veut. Ça vient... C'est une question qui vient à cause de la productivité, en fait. C'est un outil d'administration. On veut que ça aille vite, on veut que ce soit productif. On veut pas perdre de temps à se battre avec les outils qu'on utilise. Donc, bon, ça aide beaucoup. La version de jQuery, toujours intéressant. On a une version plus récente de jQuery en Drupal 7 qu'on avait en Drupal 6. C'est vraiment plus simple. Ça, en fait pour créer notre autocomplete comme différent, hiérarchisé pour les nodes, il a fallu comme changer la version de jQuery et tout. C'est un peu l'enfer. Drupal 7, je vous le conseille. jQuery, plus récent, super bon. Views 3. Views 3 qui vient avec, évidemment, là, on s'en... Bon. L'API est meilleure. Il y a beaucoup de choses qu'on peut... aussi, au niveau de l'expérience utilisateur, Views 3, bien meilleure. On espère créer un genre de tableau de bord, dashboard, si on veut, pour que, en gros, sur la page d'accueil, on aille... toute une liste de qu'est-ce qu'on a besoin au lieu de... En ce moment, je l'ai mis à l'outil de recherche, en fait, qui est d'ailleurs hiérarchisé. Là, super. J'ai même pas pensé à démontrer ça. Ce qu'on espérait faire, c'est plus avoir un tableau de bord où est-ce qu'on aurait des informations sur différents contrats, sur où est-ce qu'ils sont rendus toutes les choses, combien de temps on a punché cette semaine, ou un genre d'affaires du genre. Excusez-moi. C'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on vise à long terme. Évidemment, avec tout ça, vient la question de est-ce que on veut, à quel point on veut contribuer ça à Drupal, à quel point on veut généraliser ça. La réponse, c'est que avec le développement futur, on vise une approche beaucoup plus généralisée qu'avec le développement, si on veut. Que lieu jusqu'à maintenant, dans le sens que avec Drupal 7, c'est trop facile de généraliser. Au lieu de faire quelque chose qui est plus custom, plus fait spécifiquement pour commit, en fait, on veut que ce soit un module qui puisse être utilisé par n'importe qui, dans l'idéal. Ben, n'importe quelle entreprise de service, en tout cas. Donc, on généralise pas mal. On essaie justement de faire en sorte que notre workflow ne soit pas comme un intégré, bon, hard-codé, built-in. On essaye d'intégrer, bon, plus de hooks, de façon à ce que les autres puissent définir des hiérarchies différentes. Tout le genre de choses qui font en sorte que plus de gens pourraient s'approprier notre outil et plus de... En fait, on pourrait avoir plus de feedback aussi si plus de gens utilisent, ce qui serait très utile. J'ai prévu un peu de temps pour les questions et commentaires. J'espérais un peu... j'ai un peu oublié de mentionner, mais j'espérais avoir beaucoup de feedback. C'est un outil encore en développement. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu récolter les idées de tout le monde pour savoir qu'est-ce qui ferait en sorte que ça puisse être utile à d'autres personnes que nous. Notre use case, c'est toujours nous-mêmes. Mais si on avait plus d'informations pour d'autres gens, on pourrait généraliser encore mieux. Donc, c'est une façon de dire, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Ben, c'est un outil de gestion comme d'administration qu'on n'a pas vraiment essayé de... publicité jusqu'à maintenant, si on veut. Donc, c'est pas quelque chose qu'on essaye de montrer à nos clients parce que c'est pas quelque chose que eux veulent. C'est quelque chose que nous, on utilise. Nos clients, c'est des OBNL, en fait, en majorité. Fait que ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur fasse un site web. Keyproject, c'est sur Drupal, mais c'est plus logique d'être vu comme ça s'installe plus comme sur un intranet, si on veut, ou bon, c'est plus interne. Fait que, on n'a pas vraiment de plan généralisé de vente Key Project ou quoi que ce soit. J'ai vu une autre main. Non. Ok. Est-ce que vous avez des suggestions, des comparaisons à faire avec d'autres logiciels? Peut-être des. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait implémenter dans Key Project qui ferait que vous auriez plus de chances de l'utiliser, en fait. Plus visuel, au fond. Okay. En fait, on a déjà commencé à travailler sur un genre de fonctionnalité comme ça, mais ça a été mis un peu sur pause en attendant que on complète un peu Drupal 7, dans le sens que Drupal 7 a des vraiment meilleurs outils pour ça, mais c'est effectivement une très bonne idée. Et effectivement, on songe à le faire, mais on songe aussi à des façons de le faire, là, parce que peut-être que c'est pas nécessairement approprié pour tout le monde si on faisait juste copier les outils de Microsoft. T'sais, c'est comme, faut décider un peu qu'est-ce qu'on fait avec ça. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est je pense que Key Project est quand même adaptable à un modèle hiérarchisé, mais il faut savoir que pour l'instant, les droits d'accès, c'est vraiment plus tout ou rien, si on veut. Là. Nous, on fait confiance à tout le monde, si on veut, qui a accès à notre outil d'administration. Donc, bon, peut-être que si vous avez une hiérarchie qui est forte ou si vous avez comme 300 employés, nous, ce qu'on vise à faire, c'est pas vraiment un outil de gestion de grandes compagnies multinationales. C'est un outil de gestion de PME, vraiment. On s'entend. À ce que je sache, ils se parlent pas. On pensait beaucoup à fusionner les. Ben, on pensait beaucoup à faire l'intégration des deux parce que Redmine est vraiment facile à modifier dans ce sens-là. Évidemment, Drupal aussi. Donc, ce serait une des choses à considérer. Mais il y a un peu l'idée de. C'est un peu difficile à concevoir comment les tickets sont liés à. On sait qu'ils sont liés à un client ou à un contrat, mais bon, c'est le genre de choses qu'on essaie de voir plus à long terme, parce que c'est justement à court terme, on a un outil de gestion de tickets qui est très bon, qui est très complet, si on veut. Donc, mais oui, on essaie de connecter les deux. On va essayer de connecter les deux éventuellement. Heidi. Le module de billing, le module de facturation est comme le début de cette intégration-là. Moi, personnellement, j'aimerais ça que l'intégration soit complète, en fait. J'aimerais ça pouvoir un peu me débarrasser de notre autre outil de comptabilité. Mais c'est pas toujours possible, comme vous le savez. Mais c'est un début. Je pense qu'on progresse tranquillement vers ça, là, une automatisation complète et totale de la facturation. Mais c'est toujours bon, en fait, aussi d'avoir comme une autre personne qui. Au moins un processus pour prendre le temps d'y penser, puis qu'une autre personne intervienne pour dire bon, est-ce que tu veux vraiment envoyer cette facture-là à ce client-là, à ce moment-là? C'est toujours une question qu'il faut se poser. On ne sait pas non plus à quel point on veut automatiser de ce côté-là. Et on sait qu'on remplace. En même temps, ça progresse vers ça, mais on sait qu'on ne remplacera jamais comme complètement. On ne fera jamais tout ce qu'un outil de comptabilité fait. Mais peut-être si on se sert juste d'une partie de l'outil de comptabilité, comme je pense qu'il est le cas, on peut juste copier cette partie. Ben, copier. Améliorer notre logiciel de façon à faire un peu la même chose et abandonner l'outil complètement, idéalement. On vise la centralisation de l'administration. Et ça en fait partie. question, commentaire. Si vous considérez essayer Key Project pour votre propre PME ou votre plaisir, vous pouvez juste trouver le dépôt Git, le downloader et l'activer. Mais si vous nous contactez à info@commercialcommit.org, on va se faire un plaisir de vous indiquer plus en fait comment ça se fait, comment ça s'intègre et tout. Et puis on a déjà d'autres gens qui s'en servent, donc on pense que ça peut fonctionner, mais on serait heureux de vous aider avec ça. Je vous remercie beaucoup. Bon après-midi.